Gameblogueuse, Gameblogueur, bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction de Gameblog. Avec moi aujourd'hui, Camille.
Salut à tous.
Et Carole. Et oui.
Salut.
Nous ne serons que trois aujourd'hui pour ce podcast en petit comité parce que c'est un podcast qui va être un peu triste. Je vais vous faire le sommaire immédiatement et vous allez comprendre pourquoi ce podcast est un peu le podcast de la déception après le podcast de la hype de la semaine dernière. Nous vous parlions d'Overwatch et je ne sais plus quel autre jeu attendu comme
Battleborn.
The Witcher. Ouais, The Witcher 3 et Battleborn, non, il n'était pas dedans, il n'était pas vraiment compris dans le truc.
Il n'était pas très attendu,
mais Battlefield 1 aussi. Et bien là, cette semaine, c'est un peu la douche froide. Nous allons en parler tout de suite. Premier thème, nous allons parler de Doom, un jeu qui nous avait fait une forte impression quand il a été révélé à l'E3 2015. Mais est-ce que au final... ce n'est pas un peu la douche froide, comme il l'avait expliqué dans la bêta, après la bêta du multijoueur. Camille veut nous en parler juste après. Nous reviendrons sur Homefront The Revolution, qui lui aussi aurait pu être un très bon jeu. Mais ça se trouve, c'est pas vraiment un très bon jeu. Et Carole va nous dire pourquoi. Et on finira avec mon coup de sang du début d'année, à savoir Shadow of the Beast, auquel je croyais beaucoup aussi. Et bien finalement, encore une fois, c'est une déception. Mais tout ça... nous allons en parler après, évidemment, comme chaque semaine, avoir été du côté, eh bien, d'abord, du win.
Ah,
et qui c'est qui l'a winné, ma petite Carole?
C'est moi qui win. Ce qui win, c'est Resident Evil 7, bien sûr.
Ah, pourquoi Resident Evil 7? Il est annoncé, ça y est?
Eh bien, écoute, alors il a
c'est
pas
bon,
encore été annoncé, j'y ai pas encore joué, je l'ai pas encore terminé, mais compte sur moi, dès que ça sera annoncé, ce sera fait. Resident Evil 7 qui devrait
C'est une rumeur.
C'est une rumeur lancée sur Twitter par un analyste allemand.
Ouais. Donc l'ami Sarkane Toto, peut-être.
Exactement,
ah,
le
oui,
Toto.
Mais il est plutôt fiable. Lui.
Le Toto, voilà, il est plutôt fiable, plutôt connu. Et,
et donc,
il aurait annoncé, enfin, il prévoit l'annonce du jeu pour l'E3 2016. Et en plus, et je trouve que c'est quand même l'information la plus importante de cette rumeur, Jordan Amaro, que vous connaissez peut-être, il a travaillé sur MGS5, il a travaillé également sur Pity, c'est un ancien de chez Kojima Productions.
Ouais.
Va bosser sur cet épisode.
Jordan Amaro qui est designer, c'est ça?
Absolument.
Ouais, et qui a beaucoup de crayons aussi.
Et qui a, qui est plutôt bonnard. Et,
comment ça, qui est plutôt bonnard?
Qui est plutôt bonnard. C'est une expression marseillaise qui veut dire plutôt bon.
Ah d'accord, maintenant je pensais à autre chose. Moi je me disais, ça y est, tu le connais physiquement.
Je l'ai croisé au TGS. Je l'ai croisé au Tokyo Game Show sur le stand de MGS5. Mmh. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent.
D'accord.
Et c'est rassurant de savoir qu'il va être sur ce Resident Evil 7. Donc voilà, on a hâte de voir ce qu'il en sera.
Parce que toi tu es heureuse dans ton fort intérieur.
Alors écoute-moi, là je suis dans une joie. Là, tel que tu me vois, je suis pas à mon maximum.
Comme une puce.
Hein, voilà.
Oui, mais si on te dit que le jeu devrait revenir à des races. Plus horreur.
Et alors,
là,
c'est
normalement.
Normalement, je devrais crier à faire des choses incroyables. Mais ça, on l'avait déjà annoncé il y a quelques semaines. Enfin, on avait vu réapparaître des interviews obscures des producteurs de Resident Evil qui, effectivement, qui disaient que la licence allait revenir à son gameplay original. Alors, quand on utilise le mot gameplay, attention, on ne va pas revenir au personnage sur pivot, mais qu'on allait revenir, effectivement, à une ambiance beaucoup plus dans l'ADN de ce qu'est la série Resident Evil.
C'est ce qu'ils avaient promis avec le 6,
c'est ce qu'ils avaient promis déjà avec le 6. C'est pour ça qu'on était un petit peu, on était resté un peu tiède, on a pris ça avec des pincettes. Et puis là, le fait que ce soit effectivement, que ça revienne sur le tapis, que ce soit confirmé entre guillemets par Toto et aussi de savoir que Jordan Amaro sera sur le coup, on se dit que quand même il y a de grandes chances que ce soit le cas. Donc voilà, c'est une très très bonne nouvelle. Resident Evil 7 qui reviendrait à du vrai Resident Evil, enfin, ce serait vraiment un grand moment pour moi. Donc j'attends le 3 avec d'autant plus d'impatience.
C'est d'autant plus en phase avec, je crois, l'aveu même des développeurs qui avaient confié que Pity leur avait bien tapé dans l'œil et que c'était le genre d'expérience qui leur plaisait.
De toute façon, Pity avait plu à tout le monde. Il a inspiré pas mal de jeux. Mais effectivement, les mecs de Capcom avaient bien lorgné sur cette regrettée démo de Kojima. Et donc voilà, savoir que Jordan a bossé dessus, qui va donc bosser aussi également sur Resident Evil 7, ça confirme un petit peu l'inspiration de Pity.
En tout cas, t'y crois à mort.
Moi, j'y crois à mort. C'est honnêtement cet analyste. Si vous suivez un petit peu les rumeurs qui courent sur Twitter, en général, quand il donne des prédictions, quand il s'exprime, en général,
c'est qu'il sait quelque chose.
C'est que voilà, il y a pas de fumée sans feu. Enfin, il sait de quoi il parle. Et puis je te dis encore une fois, un ancien de chez Kojima sur le coup, moi ça me, et surtout Amaro, ça me conforte dans l'idée que ça sera le cas. Et en plus, il faut être honnête, Capcom aujourd'hui, ils se sont vachement éloignés de l'ADN de Resident Evil et les fans ont réagi. Mmh. Les joueurs ont réagi. Et je pense qu'aujourd'hui, ça n'a pas été le cas avec le 6, même si on avait une campagne avec Léon qui était correcte. Moi, je l'ai bien aimé. Ça ressemblait beaucoup à Resident Evil 4, même si, bien sûr, l'épisode n'arrive pas à la cheville de Resident 4, qui pour moi est un des meilleurs épisodes de la licence. Mais déjà, on s'était un petit peu rapproché de ça. Bon. Mais ils ont vu que les fans ont gueulé. Ça n'a pas marché. Enfin, ça n'a pas marché. Ça s'est beaucoup vendu, mais les fans n'étaient pas contents. Mmh. Donc, je pense que là, vraiment, il y a une réaction.
Bah, la réaction, c'était les remasterisations, surtout, j'ai l'impression.
Il y a eu des remasters, bah, on va aussi avoir des nouvelles. Et on va avoir des nouvelles de Resident Evil 2, très certainement, à l'E3, aussi, ça c'est clair, c'est à mon avis. S'ils font un remake à la hauteur de ce qui était Rebirth à l'époque sur GameCube, je pense que ça peut être avec la technologie d'aujourd'hui, quoi, avec la PS4 ou la Xbox One sur PC aujourd'hui, ça peut être flambant. Ça aussi, c'est une expression marseillaise, ça veut pas dire qu'on va foutre le feu.
D'accord.
Cela dit, on peut l'imaginer. Mais effectivement, ouais, là, on peut repartir vers du vrai Resident Evil, une vraie prise de conscience de la part de Capcom, et ce serait pas trop tôt, hein.
D'accord.
Voilà.
Bon,
je me suis exprimée.
On espère que cette rumeur va s'avérer vraie et qu'un jour ils vont se pencher aussi sur Resident Evil 3, le meilleur.
Oh, la
délaissance. Se tourner maintenant vers Camille, parce que la vie n'est pas faite que de win, il y a aussi des fails, et oui, et on va les enchaîner après avec les trois
thèmes.
Hein.
C'est moi qui m'en charge.
Tu vas t'en charger parce que ça me fait plaisir. Voilà, j'ai envie que tu nous fasses un peu de fail aussi de temps en temps.
Alors en fait, le fail de cette semaine, donc c'est John Cormack, donc le
John
l'art director,
McCormack,
l'art director de ex art director de Leonid Studio.
Ouais.
Défunt Leonid Studio qui a récemment fermé ses portes, qui a accordé une interview à Eurogamer. Et qui a exprimé son regret de ne pas voir arriver un Fable 4 et les raisons aussi de cette annulation. Donc apparemment, ça serait Microsoft qui aurait tout simplement qui aurait rejeté l'idée, trouvant le jeu peut-être trop ambitieux. Il y était prévu notamment au niveau du design, une avancée, parce qu'on était vraiment au Moyen-Âge pour les premiers Fables, là ça serait une avancée dans l'époque moderne, un peu qui s'inspire de l'époque victorienne avec des créatures du type
il est censé y avoir un Jacques l'Éventreur qui se balade,
mais
qui
était
un Balverine en fait, mais
voilà.
Ils avaient plein d'idées en fait pour celui-ci.
Et donc plein de petites bonnes idées qui auraient pu faire un bon Fable, d'autant que Fable, c'est vraiment une bonne communauté, mais aussi d'après Microsoft, une communauté qui n'est pas assez grosse, puisque pour eux, il n'y a pas assez de joueurs fans de RPG sur Xbox. Donc après, je vous laisse seul juge de cette réflexion, mais c'est vrai que
un peu dommage de penser comme ça, je trouve.
Ben oui, moi aussi, je trouve ça vraiment
dommage.
Alors
salut.
Ouais. C'est ça, ouais.
C'est la version de John McCormack après. Hein,
c'est ça.
Dans tout le papier de Eurogamer.
Après, Microsoft avait aussi un souhait, c'était de faire un free-to-play du nom de Fable Legends. Donc, qui n'a pas du tout plu, mais on peut le dire vraiment, qui n'a pas du tout plu à l'équipe de développement originelle de Fable 4. Et du coup, ça n'a pas vu le jour non plus, ça a été aussi annulé. Mais malgré tout, il y a quand même 75 millions de dollars qui ont été engloutis. Pour développer ce projet qui aurait été normalement un jeu cross-platform qui aurait été à la fois sur Windows 10 à la fois sur Microsoft.
Ouais, il a été annulé il n'y a pas très longtemps. On avait l'occasion d'y jouer d'ailleurs. Je crois que c'est c'est pas la Gamescom que j'y ai rejoué la dernière fois, je sais plus. C'était à l'E3 donc j'avais pu y jouer.
Mais bon, ce jeu de toute façon n'avait pas forcément. Déjà, l'idée d'un free-to-play avec l'univers de Fable n'avait pas forcément emballé les fans. Donc après, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Dans tous les cas, les pauvres développeurs de Fable 4, du coup, ils ont rendu les clés.
Enfin, de Legends.
De Fable Legends, ils ont rendu les clés. Et puis, du coup, ça crée du chômage. Et en plus, ça a retiré un bon jeu à la liste.
Oui, c'est dommage.
Surtout des RPG sur Xbox, il n'y en a pas tant que ça. Ça ne court pas non plus les rues.
Et puis, c'est vrai que c'est une super licence. Moi, j'ai adoré le 2.
T'as adoré le 2,
J'ai adoré Fable 2. Ouais. Le 3, peut-être un peu moins. Pourtant, il y avait plus de choses à faire. C'était plus dense. Mais ouais, le 2, ça reste mon épisode préféré.
Mais d'autant qu'en plus, comme je l'ai dit, il avait vraiment une base. C'est un jeu qui
avec
avait une base de fans assez impressionnante il avait de quoi faire quelque chose.
Un background qui était mortel
c'est
aussi.
Ça, ouais.
C'était génial.
Mais bon, donc Microsoft a préféré tourner le dos à Fable 4. C'est plutôt triste. Et rappelle aussi, Peter Molineux, pas très longtemps, a dit que un Fable 4, si on lui proposait, il dirait pas non et il ferait revenir justement les frangins de Lionhead qui avaient bossé dessus.
Mais après, c'est une question de budget. Il y a une question de budget qui va rentrer.
Mais on ne sait jamais. Tout est encore possible. En tout cas, je croise les doigts. Même si je ne suis pas le plus grand fan de Fable. Il y en avait d'autres à la rédac qui l'étaient avant moi. Bref.
On veut des noms.
Ah bah, je pense que... Non, je pense que dans les commentaires, les gens pourront le dire. Il y avait des gros fans de Fable à la rédac.
Mais
ils sont plus. Ah, ouais. Tu lâches le morceau comme ça.
Excusez-moi, merde.
C'est pas grave, je t'en veux pas. Oh. On va passer au premier thème de la semaine.
Un petit bisou s'ils nous écoutent d'ailleurs.
Bah, bien sûr, évidemment, comme toujours. Et le premier thème de la semaine avec cette musique tout à fait calme.
Pour un jeu calme.
Pour un jeu très calme, regarde, tu vois, regarde, il se passe rien là. Et voilà, en fait, ça recommence. C'est on va parler de Doom.
La musique de Doom, ils l'ont reconnu, donc la musique d'intro du jeu, qui est aussi dans le menu. Donc Doom qui est, qui est pas non plus une grosse déception, qui est, disons-le clairement, une petite déception. Ah. Je vais vous l'expliquer tout de suite pourquoi.
Alors dis-nous.
Moi, je suis un gros fan de Doom à la base. Hein. J'ai joué au premier, au deuxième, au troisième. J'ai joué à Brutal Doom, donc c'est une version PC qui avait été, qui part d'un mod à la base.
Ouais.
Donc moi, Doom, pour moi, c'est ma cam. Donc j'attendais beaucoup de celui-ci.
C'était séduisant en plus.
Voilà,
hein,
c'était séduisant.
C'est ce qu'on avait eu à l'E3, ça avait l'air mortel. Bah oui,
mais grave.
Mais c'est mortel. Mais attendez, attendez.
Ah. Mais pas dans le bon sens.
C'est un résultat en demi-teinte. En demi-teinte, pourquoi ? Parce que le solo est exceptionnel. On peut le dire, c'est un très très bon jeu solo. J'ai passé, alors elle dure déjà, il faut savoir que ça dure entre 15 et 20 heures selon le mode de difficulté à laquelle on joue, parce qu'il y a quand même 5 modes de difficulté, dont le fameux Ultra Nightmare
qui
envoie du pâté et dans lequel il n'y a aucun respawn. C'est-à-dire que si on meurt, c'est une mort définitive, on doit se retaper la campagne 2-0. Donc je te laisse un peu imaginer la pression, à tel point que même les développeurs d'ID Software ont annoncé qu'eux-mêmes n'avaient jamais réussi à...
Alors, c'est après, dingue.
Est-ce une question de marketing ou non, on ne sait pas, mais en tout cas, ça promettait.
Alors c'est un reboot,
j'ai envie de jouer en plus.
Du premier épisode, donc ça reprend les bases, c'est-à-dire le scénario tient sur un timbre poste, c'est-à-dire qu'en gros on se réveille dans une salle de torture sur la planète Mars, on découvre qu'il y a des scientifiques qui ont fait un peu n'importe quoi, la planète Mars est lointaine de la Terre, donc on s'est dit bon pourquoi pas faire des expériences scientifiques et médicales. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va ouvrir des portes démoniaques et ça va être la grosse merde. Bah, exactement comme les scénarios des précédents. Et donc là, à ce niveau-là, ça reste vraiment du gros basique. On joue le bourrin de service, on se réveille donc dans cette fameuse salle de torture, un peu, entre médicale et salle de torture. On récupère la fameuse Doom armure et on va commencer dès le début, alors les premières scènes, hein, c'est dans les 10 premières minutes, à bourriner du mutant, enfin pas du mutant mais du démon plus précisément. Et ma foi, à ce niveau-là, c'est assez convaincant, c'est-à-dire qu'on retrouve l'action frénétique des premiers Doom.
D'accord, parce donc que c'est pas du tout dans l'ambiance du 3, non, alors, exploration dans le noir, on sait pas ce qui se passe, il y a la lampe-torche.
L'ambiance du 3, si vous vous rappelez, avec les murs, les fameux murs qui font peur, Doom 3, c'était un jeu qui s'écartait un peu de l'essence même de la franchise, c'est-à-dire qu'on était plus dans le survival horror que dans le jeu un peu bourrin. Alors que là, pas du tout, on retourne, les équipes d'ID Software ont vraiment fait un retour aux sources. C'est-à-dire qu'un FPS purement action, vraiment action frénétique, un fast FPS. Ici, aucune raison de... Enfin, c'est pas du tout d'horreur, pas aucune notion d'horreur à aucun moment.
Bah, c'est quand même très gore.
Ah oui, mais après, c'est gore et l'horreur, faut pas confondre. Hein. Par exemple,
c'est pas angoissant, quoi.
C'est pas angoissant, c'est comme confondre Saw et, je sais pas, et l'exorciste, quoi. C'est du gore.
C'est pas le même type de peur, ouais.
Voilà, c'est pas le même type de peur, c'est pas du tout, c'est sur la même chose. Donc là c'est vrai que c'est gore. Il y a de la mare de sang, il y a du démembrement. D'ailleurs, vous pouvez le voir à l'écran pour ceux qui
c'est
sont premium.
Non
seulement ce fameux système de fatalities, donc c'est les glory kills, ils appellent ça dans Doom, qui reprend un peu le système de fatalities à la Mortal Kombat, c'est-à-dire qu'on va faire des finishes au corps à corps, et c'est vrai qu'on peut les enchaîner vraiment pas mal. On va pouvoir
le faire.
Ah oui, c'est très simple. Il suffit, en fait, une fois qu'un mutant, pourquoi je dis mutant, je ne sais pas, un démon, une fois qu'un méchant est affaibli, il va être en surbrillance. On va s'approcher, appuyer sur la touche R sur PC, je ne sais pas, je me rappelle plus
c'est
du tout de la touche,
c'est pas très grave, c'est un détail.
Et notre personnage, donc le Doomguy, va se mettre à attraper le mutant pour le finir, en fait. Donc on a le droit à des animations un peu vraiment, vraiment, vraiment gore, c'est pour ça que le jeu d'ailleurs est déconseillé, oui. Même interdit au moins.
Ce qui me fait penser, est-ce que c'est pas un petit peu, est-ce que ça ralentit pas un peu l'action d'enchaîner justement toutes ces mises à mort ?
Moi, c'est ce que j'avais pensé aussi quand on a vu les vidéos promotionnelles. C'est vrai qu'on en voyait quand même pas mal, et finalement on y prend goût, et de toute façon, j'ai envie de dire, au bout d'une dizaine d'heures de jeu, c'est vrai que on les finit aux armes à feu et on prend plus vraiment le temps de les finir à la main. C'est vraiment les premières heures, c'est le plaisir de la découverte, le plaisir de faire ça. C'est vrai qu'on arrive, en fait, on a vraiment une sensation de puissance quand on contrôle le personnage, notamment à travers les armes, mais aussi à travers ce système de corps à corps. On va par exemple choper un méchant, lui arracher le bras et tabasser un autre avec. Enfin, c'est vraiment du n'importe quoi, mais c'est du Doom.
Ouais,
quoi.
C'est bourrin, c'est nerveux.
C'est nerveux et
puis
notamment.
C'est beau, moi, je trouve ça beau. Hein.
Et c'est très beau.
Je trouve ça très beau.
Donc, qui dit FPS, qui dit aussi évidemment armes à feu, puisqu'on ne va pas servir que de nos points. Donc, les armes à feu, le système d'armes à feu est vraiment, vraiment très bien pensé. Elles ne sont pas forcément très nombreuses, hein. Il y en a une douzaine. Mais chaque arme possède deux modes. Par exemple, le fusil à pompe, il possède un mode triple tir, donc ça va pouvoir enchaîner trois shots d'un coup, et un mode lance-grenade. Et on va pouvoir les débloquer, ces fameux modes, par le biais de points. Et ces points, on va les trouver dans les niveaux, notamment des fameuses caches. Donc ce sont parce qu'en fait, faut se rappeler aussi dans Doom 1 et Doom 2, et aussi Doom 3, mais un peu de façon un peu moindre, on devait débloquer des portes par le biais de cartes.
Ouais. Tout à fait,
donc
ouais.
Là, ces cartes de couleur différentes, on va pouvoir nous donner accès à des caches, des zones secrètes, et ces zones secrètes vont permettre notamment de récupérer ces fameux points pour améliorer ses armes. Donc par exemple, au bout de deux points, on va pouvoir débloquer le lance-grenade du fusil à pompe, et ensuite, une fois qu'on a débloqué ce mode, on va avoir accès à 5 caractéristiques, 5 pouvoirs différents. Je vais prendre un autre exemple, on a la mitrailleuse, il y a deux modes différents, il y a le mode télescopique, donc tout simplement une lunette qu'on va rajouter. Une fois qu'on l'a débloqué, on va pouvoir encore débloquer des choses, donc ces 5 fameux pouvoirs, et on a par exemple le pouvoir de headshot surpuissant, c'est-à-dire qu'en gros, dès qu'on va zoomer avec la lunette, nos tirs vont avoir plus d'impact quand on fait des tirs en pleine tête. Donc voilà, on a par exemple pour revenir au fusil à pompe, quand on débloque le mode lance-grenade, on va avoir un mode explosion étendue, donc la grenade va faire plus de dégâts.
Mais t'as tellement dû te défouler.
Et alors, en fait, si, c'est vrai que c'est un gros défouloir.
Mais tu flippes pas un petit peu quand tu vois un démon géant là qui arrive
Justement, là où on flippe entre guillemets. C'est quand on a un mode de difficulté qui est élevé, notamment à partir du mode Nightmare, donc difficile.
Si t'es obligé de te retaper les autres niveaux.
Ben oui, c'est ça. Parce qu'en fait, contrairement à des FPS du type Quake, je reprends Quake parce que c'est vrai que c'est les mêmes développeurs, où les munitions, on en trouvait un peu partout sur tout le long du niveau et on n'avait pas du tout à s'inquiéter de ça. Là, c'est vrai que les munitions, on va devoir les compter. C'est-à-dire que quand on par exemple débloquer le lance-missile, enfin le lance-roquette, on va avoir un nombre très très limité de munitions, et quand on tombe à court en pleine action, c'est vraiment la grosse dèche. D'autant que des mutants, enfin des...
Ah, des bons. Non, des démons.
Mais il veut les mutants, enfin des démons, Camille, c'est vous, jeune enfant.
les mutants, enfin. Des démons, il y en a une bonne flopée.
Les méchants.
Il peut en avoir une bonne flopée, même parfois pas dizaines, qui vont nous attaquer, des grosses vagues. Et c'est vrai que si on tombe à court de munitions, ça va être très difficile, notamment dans les modes de difficulté vraiment supérieurs.
D'accord, donc on n'a pas assez. Enfin, les armes sont. C'est bien qu'on en ait beaucoup.
C'est bien qu'on en ait beaucoup.
Enfin, qu'on en ait bien modé, quoi.
Justement, ces fameux modes qui sont très faciles d'ailleurs à enclencher, avec une seule touche, notre personnage va choper son arme et va changer l'embout. En fait, on change d'embout au bout de l'arme, quoi.
Ça se fait à la volée pendant que tu canardes déjà, en fait.
Non, ça ralentit pas vraiment l'action parce que c'est vraiment très rapide. Hein. Il fait ça en une demi-seconde, donc ça reste frénétique. Et donc, justement, faut pas hésiter à changer ces modes d'armes pour pouvoir avoir des munitions. Parce que si on prend les roquettes, par exemple, les grenades du fusil à pompe, ça a d'autres munitions que les simples balles qu'on utilise. Donc,
donc du coup, au final, la campagne qui permet d'utiliser toutes ces armes, d'affronter des vagues et des vagues de monstres et tout, elle est bien équilibrée.
Surtout des boss aussi. Alors, la campagne est vraiment très équilibrée à ce niveau-là. Vraiment rien à redire, c'est très propre. Graphiquement aussi, c'est très propre, c'est très beau. Il y a un gros travail qui a été fait sur les lumières. Donc ça, vous pouvez encore le remarquer sur les vidéos de gameplay qui passent.
Effectivement,
les,
si vous êtes premium, si vous êtes premium.
Moi, j'attends que tu me parles de ce qui va pas en fait.
C'est vraiment ouais. Bah, j'y viens.
Et dans le solo, il y a des choses qui vont pas.
C'est alors dans le solo, l'un des seuls points qui serait à redire, ça serait parfois. Alors je sais, pour mon test, certains ont reproché un peu ça. Mm-hmm. On est beaucoup de testeurs dans la presse professionnelle à l'avoir souligné le fait d'avoir des niveaux labyrinthiques. Mm-hmm. Alors comme pour le sketch des chasseurs des inconnus, il y a deux sortes de niveaux labyrinthiques. Il y a les niveaux labyrinthiques disons négatifs et positifs, c'est-à-dire que dans ce Doom, c'est pas le labyrinthique qui va nous faire voir des niveaux différents. Là, c'est du labyrinthique qui va nous perdre, mais qui va ralentir l'action. Donc pour un jeu comme Doom qui se veut frénétique du début jusqu'à la fin, ça peut être problématique.
Mais ça pouvait arriver dans les deux premiers Doom, j'ai des souvenirs.
Dans le premier, dans le deuxième, obscur, c'était pas le cas. Dans le troisième, c'était le cas parce que justement c'était voulu.
Oh, je me souviens, je me paumais dans Doom Ultimate.
Mais
Doom,
oui, mais enfin pour moi c'était beaucoup moins prononcé, beaucoup moins prononcé. Alors justement là, Carole, tu vas être contente, j'ai parlé des points négatifs. Ce point.
Enfin contente. On dirait que je veux.
Ce point négatif se retrouve aussi dans la campagne, enfin dans la partie multijoueur. C'est d'ailleurs ce qui m'a déçu. C'est vraiment la partie multijoueur. C'est d'ailleurs ça qui a fait baisser un peu la note. Je vais vous en parler un peu après. Donc la partie multijoueur qui est, comment dire, un peu mou du genou, même carrément mou du genou, pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, les niveaux sont le level design est vraiment mal travaillé, en sens où
c'est beaucoup moins beau que la campagne solo.
On se retrouve souvent à chercher l'ennemi. Alors pour un jeu encore une fois comme Doom, c'est assez problématique. Parfois on reste même 2 minutes sans trouver d'ennemi. Je sais pas si c'est parce que les niveaux sont trop grands ou parce que c'est vraiment parce que c'est les labyrinthes, enfin les défilés de couloirs qui sont pas forcément bien amenés. Ouais. Donc à ce niveau-là, c'est un peu problématique. Et deuxième problème, c'est le punch des armes. C'est-à-dire que contrairement au mode solo où nos armes vont avoir un gros impact sur les démons, où ça va exploser dans tous les sens, ils vont se retrouver à reculer, etc. L'impact dans le mode multijoueur sur les joueurs n'est pas le même. Donc ils ont une certaine résistance et cette résistance, elle va vraiment se sentir dans la frénésie des combats, et parfois on va se retrouver à tirer pendant une bonne minute sur un ennemi avant qu'il décède. Donc ça, c'est un peu problématique aussi. Il y a aussi des petits problèmes de physique. Alors je trouve plus le terme exact, mais les dégâts, voilà, les dégâts sont pas forcément bien localisés. Parfois on se retrouve à tirer dans le cou et ça fait pas énormément de dégâts. Enfin,
c'est un nombre de points de vie en fait.
Voilà, c'est ça. Et ça, c'est un peu problématique. C'est vrai que pour un jeu comme Doom, c'est là encore plus. Donc si on additionne ces deux problèmes, on se retrouve avec un gameplay qui est assez mou en multijoueur, d'autant que les modes, malgré qu'ils soient nombreux, il y en a quand même 8, finalement ils se ressemblent un peu tous. Finalement on se retrouve à faire du team deathmatch classique, parce que les autres modes, ça reste du bourrinage, hein. Même les captures de zone où on doit... capture de drapeau, finalement on se retrouve que à bourriner, quoi. Jamais on se dit tiens, j'ai joué l'objectif. Ça arrive que très rarement. Après, il y a un point positif quand même pour le multijoueur, c'est la personnalisation des personnages. C'est-à-dire qu'on peut vraiment, on n'a pas de clone pour éviter de ressembler à son voisin. On peut changer son armure, on peut changer les embouts, on peut mélanger chaque armure ensemble. Par exemple, on peut mettre le casque d'une armure avec le torse d'une autre armure. Mmh. On peut changer la couleur, on peut se retrouver avec une armure. Ça plaira pas forcément aux grands fans purs et durs de Doom, mais on peut se retrouver avec une armure rose fuchsia. Enfin, tu vois, c'est à ce niveau-là.
C'est
marrant.
Un éditeur de niveau dans celui-ci.
Alors oui, justement, j'y viens. Il y a sinon, pour sortir totalement du multijoueur, quoique on y reste quand même, il y a le fameux mode Snap Map. Donc Snap Map, en fait, c'est un éditeur de niveau qui est vraiment très bien foutu. On peut notamment gérer toute une série de scripts, notamment la vitesse de son personnage, le nombre de vagues d'ennemis qui vont arriver. On peut créer son niveau du tout au tout, mais avec que des éléments qui sont dans le jeu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer pouvoir créer des modèles ou importer des modèles qu'on a nous-mêmes créé avec 3DS Mark ou des choses comme ça. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment avec les modèles préexistants dans le jeu, mais il y a vraiment moyen de créer ces niveaux. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça permettra à la communauté de faire des arènes multijoueurs qui vont vraiment être travaillées avec plus de... plus de réflexion. Après, je dis pas que les développeurs ont vraiment foiré le multi, mais c'est vrai que pour moi, ça aurait pu être mieux travaillé. Et donc, à ce niveau-là, vous pouvez encore voir pour les premiums, le mode Snap Snap Map, il est vraiment
C'est simple d'accès, je veux dire, c'est n'importe vraiment, qui peut y aller
C'est très simple d'accès pour moi, qui suis pas forcément, qui suis un peu une bille en programmation, j'ai pu créer très facilement mon niveau.
Tu parles de programmation déjà, non, ça va pas jusque là quand même.
Non, c'est, enfin, quand je dis la programmation, c'est la programmation
au sens large,
c'est à dire que on va décider d'un point de départ de la map, un point de spawn, le point de spawn des monstres, etc. Donc ça reste quand même de la programmation, mais très très basique, évidemment.
D'accord.
On va pas rentrer dans les détails. Et mais il y a quand même des courbes, des pourcentages qu'on peut modifier à sa guise pour améliorer la puissance des armes. Donc on peut, si on veut, vraiment faire quelque chose de très propre. Après,
pour très vicieux, j'imagine.
Et oui, voilà, c'est ça.
Ça va être surtout ça l'intérêt.
Mais donc voilà, ça c'est une très bonne nouvelle qu'il ajoute ce mode, parce que ça va permettre notamment, comme je l'ai dit, pour les arènes multijoueurs, mais aussi tout simplement pour agrandir la durée de vie du jeu, qui est pour l'instant multijoueur un peu faible, parce qu'on se retrouve un peu à faire la même chose, donc c'est un peu répétitif.
D'accord.
Voilà, voilà pour les défauts de Doom. Donc moi je l'ai testé évidemment sur PC. J'ai aussi touché à la version PS4.
Ah oui, j'allais te demander justement, version donc, PS4 et Xbox One sont
très bonne
sont
nouvelle pour les joueurs console. On a droit à du 60 FPS en 1080p, donc ça à ce niveau là c'est une très bonne nouvelle, d'autant que pour un jeu comme Doom où l'action est vraiment hyper importante, la vitesse c'est capital.
Ah bah c'est quelque chose de constant du côté de chez ID Software. Ils ont toujours soutenu le 60 FPS.
Rage
par exemple était un jeu qui était un jeu magnifique, était en 60 FPS aussi, parce qu'ils n'imaginaient pas que au niveau précision c'est indispensable d'avoir un taux de rafraîchissement
élevé. Et sur PC, avec même une configuration modeste, on arrive à 100 FPS. Donc ça, c'est
tu
vraiment...
Tu dis modeste, tu veux dire comme moi, 970
Avec une 560, avec une 560, tu peux faire du 160 du 100 FPS facilement. Après, évidemment, faut
c'est
faire
en
flic
de fer à ce moment-là, non ?
Après, il faut faire des concessions, évidemment, au niveau graphisme, mais en médium, avec une 960 en qualité médium et en 100 FPS, c'est tout à fait possible.
Ah,
d'autant que, très bonne nouvelle, c'est que les textures, enfin, bonne nouvelle pour les uns et mauvaise nouvelle pour les autres, les textures sont pratiquement identiques, qu'on soit en niveau de détail élevé ou faible. Ce qui fait que ça va faire grincer des dents les amateurs de 4K. Je salue Poufy à ce passage, mais c'est vrai que les amateurs de 4K vont peut-être se mordre les doigts, parce qu'on n'a pas de texture en 4K, on reste sur la texture HD classique, et c'est vrai que du coup il n'y a pas vraiment de grosses différences qui se font entre les différents niveaux de détails. Les seules différences flagrantes, ça va être au niveau des lumières, au niveau des effets volumétriques, donc les brouillards, etc. Et sinon, vous inquiétez pas, si vous avez une configuration modeste, le jeu restera tout de même beau, il est très bien optimisé, et ça c'est une très bonne nouvelle.
Très, très beau, hein. C'est très très. Moi je vais y jouer sur PS4, donc je suis content.
Oui, sur PS4 justement. Voilà. Moi la seule chose que j'aurais à redire, mais après je pense aussi c'est parce que je suis vraiment j'ai commencé
l'anti-aliasing peut-être.
L'anti-aliasing ça va, il est assez, c'est assez performant sur console. Non, c'est plus en fait les déplacements à la manette, en ce sens où Doom requiert vraiment beaucoup de vitesse. Quand en mode médium, ça va, parce que tu prends ton temps, tu vas prendre ton temps pour tuer les démons, donc ça va. Mais quand on commence à rentrer en mode nightmare, et encore pire en mode ultra nightmare, on va devoir faire preuve d'une efficacité à toute épreuve.
Une dextérité totale.
Et vraiment, c'est vraiment au poil près, on va pouvoir vaincre ou perdre.
D'accord.
Et ça, c'est vrai que peut-être qu'avec une manette...
C'est quand même, de base, Doom, c'est quand même un jeu, c'est un jeu PC.
C'est
quoi,
vrai que
donc,
si vous avez l'occasion, je conseille quand même de le prendre sur PC. Après, c'est vrai que mais dans tous les cas, vous n'aurez pas une version en DK si vous prenez la version console, et ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà.
Okay,
d'accord, très bien. Donc, tu l'as mis la note 2.
Alors, moi, j'ai mis la note de 7. C'est vrai que.
C'est décevant, quoi.
C'est...
Moi, je suis déçu, là.
Mais 7, ça reste bon.
Ça reste bon. C'est
ça
bon,
reste
hein,
bon, 7.
Ah, mais moi, Doom, c'est là-haut. Enfin, je sais pas.
Mais
après, voilà, c'est tout.
Le truc, c'est que voilà, comme je l'ai bien dit, expliqué dans le test, donc n'hésitez pas à le retrouver sur Gameblog. Moi, c'est vraiment la différenciation multi. On a l'impression que entre le multijoueur et le solo, c'est pas la même team qui a développé.
C'est un peu moins beau, c'est ce que je te dis.
Alors, non, ça reste toujours aussi beau. Par contre, c'est peut-être un peu plus.
Ça me semblait
rigide.
Un peu plus. Voilà, ouais.
C'est un peu plus rigide sur multijoueur. Mais honnêtement, dans le feu de l'action,
exactement.
Compte,
ouais.
Bon, en tout cas, moi je suis déçu déjà. Mais bon, je fais quand même le solo pour.
Oui, parce que le solo est très bon, donc ça reste. Et puis, bon, et puis 20 heures de jeu.
Que le solo, donc.
Oui, et puis 20 heures de jeu, faut pas cracher dessus. 20 heures de jeu, c'est quand même.
C'est honorable.
À l'époque, c'était peut-être un peu faiblard. Maintenant, 20 heures de jeu, c'est quand même. C'est honorable. Donc, franchement, même si vous pensez y jouer qu'en solo, n'hésitez pas, foncez, vous allez vous régaler.
Très bien. Donc c'est pas vraiment une déception. En fait.
Non, c'est pas vraiment une déception, une semi-déception. Voilà, on va dire ça comme ça.
Très bien. Sorti le 13 mai sur PS4, Xbox One, PC.
Voilà.
Et voilà, il a récolté 7 sur 10 sur Gameblog. Et on va passer au deuxième thème, donc le deuxième jeu au final.
Eh bien oui.
Qui est un jeu, ma foi, fort décevant lui aussi.
Un petit peu décevant aussi, Homefront The Revolution, qui fait suite donc à Homefront. Quelle originalité, quel style.
C'était une déception d'ailleurs.
Qui avait déjà été une déception.
Mais c'était une déception par rapport à sa durée de vie à l'époque, hein, si je me rappelle bien, parce
alors,
que le reste était plutôt bon.
Effectivement, c'était pas très très long, mais là encore une fois, c'est pas non plus, c'est pas. Disons que c'est difficilement comparable en termes de durée de vie, puisque c'est un monde ouvert, contrairement au premier épisode, exactement, qui était un petit peu un couloir, il était assez linéaire. Là, on a un monde ouvert dans lequel, bien sûr, on va avoir énormément de liberté, et selon la manière dont tu vas jouer, si tu as envie de te balader, prendre le temps, etc., bah, effectivement, la durée de vie est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus significative.
Mais est-ce que tu peux nous remettre le contexte?
Alors,
le scénario, il a l'air bien travaillé. Donc,
En fait, c'est assez similaire. Similaire au premier épisode, encore une fois. Nous sommes en Amérique, nous sommes à Philadelphie cette fois-ci, et le monde est dominé, l'Amérique est dominée par la Corée impérialiste.
Donc la Corée du Nord.
La Corée du Nord.
Kim Jong-un a réussi.
Absolument, voilà.
Je suis dégoûté.
Et donc on fait partie de la résistance, donc une résistance qui œuvre dans l'ombre de Philadelphie, qui est devenue chaotique. Et donc on va incarner un personnage qui va rentrer un petit peu malgré lui dans la résistance, et qui va aider donc cette unité à reprendre la ville.
D'accord.
Donc moi honnêtement, alors j'ai été déçue, oui et non.
Ah.
Je vais commencer par les points positifs.
Bah
oui, mais écoutez les enfants,
non,
vous me demandez là.
Il va falloir vous entendre.
Je sais pas. Donc j'ai été déçue, oui et non. Pourquoi? Parce que déjà c'est le type de jeu qui me branche, moi. Donc je me suis beaucoup amusée. Vraiment,
d'accord,
je me suis amusée. C'est ce que je disais à Julien.
Mais tu me l'as dit aussi d'ailleurs au passage. Il n'y a pas qu'à Julien
que
tu parles.
Test,
des fois aussi tu nous parles.
Effectivement,
ça nous arrive.
Et à vous aussi d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutaient, si vous avez lu le test, vous l'avez probablement lu et vu. Je me suis vraiment amusée.
Bah, en même temps, donc, ça ressemble beaucoup à Far Cry en version urbaine.
C'est
hein.
exactement ça. C'est exactement Far Cry en version chaotique, en version guerre. Si tu veux, on va devoir réveiller, soulever tous les quartiers, toutes les zones de Philadelphie. Donc par exemple, il y a plusieurs zones. Il y a la rouge, il y a la verte et la jaune. Nous, la résistance, on est dans la zone rouge. Hein. C'est là qu'on a établi nos quartiers, etc. Et puis il y a la zone jaune où il va y avoir énormément de... De toute façon, il y a énormément de civils. Et puis il y a la zone verte qui est la plus dangereuse.
La zone des dirigeants, en quelque sorte.
La zone des dirigeants, voilà, où la Corée s'est établie. Et on va donc devoir relever, si tu veux, la population. Donc on va pouvoir faire diverses actions pour les amener à être à nos côtés. Donc on va aider des mendiants dans la rue, on va empêcher des exécutions, délivrer des prisonniers. Mmh. On va couper les câbles de système électrique pour que les radios ne puissent pas fonctionner pour saper la propagande. On va reprendre des endroits, souvent c'est dans des immeubles désaffectés. Des espèces de vieux des entrepôts
des
aussi
hangars,
mais c'est souvent des hangars voilà, mais c'est souvent en hauteur. Il y a beaucoup de verticalité dans cet épisode, j'aime bien. Et souvent il faut être très observateur pour savoir par où passer pour aller dans certains endroits, pour reprendre en fait ces endroits qui sont des points de contrôle en fait, qui vont donc nous aider une fois qu'on va en avoir pris 2, 3, 4 à reprendre la totalité du quartier
et faire gaffe aux patrouilles aussi,
tout en
j'ai envie
faisant
dire.
Gaffe aux patrouilles effectivement,
parce qu'il y a des soldats, mais
alors,
il y a aussi des drones. Il y a aussi des vaisseaux volants.
Alors il y a un appui aérien effectivement. Ouais. C'est une sorte de de ballon indirigeable en fait, qui va balayer la zone 24 heures sur 24. Et si on est repéré par exemple par des drones, eh bien ce sont les drones, ces derniers, qui vont alerter le dirigeable, qui à son tour va alerter les forces ennemies. Et c'est vrai qu'il va falloir faire très attention. On a un cycle jour-nuit qui est très 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 bien fichu, et donc je conseille pour ceux qui aimeraient se lancer malgré tout dans cette révolution de plein pied, eh bien de mener leurs petites affaires la nuit pour pas se faire opérer. Mais il y a aussi
une vraie différenciation entre la nuit. Enfin, il a vraiment eu un impact.
Exactement. Ouais, c'est mieux. Tu te fais moins repérer la nuit, forcément. Ouais. Alors après, je sais pas si c'est psychologique ou pas, mais en tout cas, ça a marché avec moi. Ça fonctionnait beaucoup mieux la nuit. Et puis, tu peux aussi te fondre dans la masse, c'est-à-dire que tu ranges ton arme et puis tu te mets. Il y a beaucoup de passants, il y a beaucoup de civils. Hein, c'est ce que je disais. Donc, tu peux te fondre dans la masse pour ne pas te faire repérer. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Tu vas avoir donc une jauge qui va te renseigner sur le niveau de détection de ton perso. Donc c'est assez facile de se rendre compte si tu te fais avoir. Tant que tu t'es pas fait repérer, tu peux te planquer. T'as des bennes à ordures un petit peu partout dans la ville, donc tu peux aussi te planquer un peu à la MGS. Il y a un petit côté infiltration qui est vraiment intéressant.
Il y a des véhicules.
Alors tu peux conduire une moto, mais très honnêtement, je m'en suis pas vraiment servie. Ouais. C'est vrai que la carte est très spacieuse, donc effectivement, si tu veux aller un peu plus vite, tu peux te servir de la moto. Mais du coup, c'est difficile de rester, discret parce que tu vas, il y a beaucoup d'ennemis partout, donc ça va être un petit peu compliqué. Moi, j'ai tout fait à pied, très sincèrement. Après, il y a d'énormes véhicules ennemis,
blindés,
notamment
hein.
le Goliath, qui est assez connu, qui était également présent dans Homefront. Et puis, il y a énormément d'ennemis, ils sont tous en groupe, et à chaque fois, c'est très difficile de pouvoir s'en débarrasser. L'IA ennemi est vraiment très très bien calibrée, contrairement à l'IA des alliés, puisque tu peux recruter des civils. Voilà, sur le champ de bataille, en appuyant tout simplement sur un bouton. Là, en l'occurrence, sur PS4, c'était en appuyant sur carré. Tu peux recruter des civils armés qui sont pas vraiment doués.
Ouais,
donc tu peux aussi les libérer. Après, pareil, en te mettant près d'eux, tu peux leur rendre leur liberté.
Et du coup, t'as fait ton...
C'est pas exceptionnel en termes d'IA alliés. Oui.
T'as fait ta petite équipe ou
dès que je croisais des alliés que je pouvais les recruter, je les recrutais. Mais honnêtement, ça m'a pas franchement aidé. Oui, je trouve que c'est un peu ça sert pas à grand chose. En tout cas, il y a un bon rythme. Vraiment, je me suis amusée justement à reprendre tous les quartiers, à faire toutes mes petites affaires, à aller un peu saper justement. La propagande, enfin je me suis vraiment régalée. En plus, il y a énormément d'armes qui sont modulables, donc tu vas pouvoir par exemple transformer ton flingue en petite mitraillette, tu vas avoir une arbalète, tu vas avoir un lance-flamme, enfin il y a énormément de choix à ce niveau-là. Et tu vas avoir également la possibilité de fabriquer divers éléments explosifs, comme par exemple tu vas avoir une voiture téléguidée que tu vas pouvoir balancer ou poser comme un piège ou faire exploser lorsque toi tu l'auras décidé. Tu vas avoir des bombes, tu vas avoir des dispositifs, si tu veux, de diversion qui vont te permettre en fait de détourner
des
leurs, exactement, on peut appeler ça des leurs. Tu vas avoir également bien sûr des cocktails Molotov, hein, tu vas avoir tout un tas d'éléments.
D'accord.
que tu vas pouvoir fabriquer en ramassant plein de
des
petites
matériaux.
Choses, des matériaux.
Mais,
sur le terrain, tu vas également ramasser des éléments comme des paquets de cigarettes, des éléments aussi
pour revendre
exactement, tu vas pouvoir les revendre, mais ce sont des éléments qui ont
de la
valeur ou pas, mais en tout cas ça va te permettre de gagner un petit peu plus d'argent pour pouvoir effectivement acheter des armes et de l'équipement à la boutique. Donc tu as des boutiques dans chaque planque, tu vas aller de planque en planque puisque tu vas évoluer avec des personnages qui vont chacun à leur tour te donner des missions.
De ce côté-là, d'ailleurs, personnages, mise en scène.
Je trouve que le scénario tient vraiment bien la route et puis tu te sens tout de suite happé dans cette révolution. T'as envie d'aider les civils, t'as envie de reprendre ta ville. Tu trouves que tout de suite les Coréens sont vachement. Enfin, tu trouves que c'est des monstres en fait, alors que ils font leur job. Enfin, c'est assez. Je trouve que c'est assez assez réussi, et... bien mené, bien écrit. Moi, j'ai pas trouvé à redire.
Pas trop
de
répétitif
ce côté-là.
Au niveau des.
Alors justement, un peu répétitif parce qu'effectivement, à force de reprendre les quartiers en cassant les câbles des éléments électriques, en allumant les radios, en prenant les comment dire des immeubles, des endroits, des lieux de tu peux aussi reprendre des lieux de des lieux à tes ennemis, si tu veux, des lieux comment le terme m'échappe,
conquérir
non du tout, ce sont des
QG.
En fait des sortes de QG, voilà, où ils ont un petit peu établi leur voilà des sortes de mini
bases,
c'est comme des avant-postes en fait, hein, tu peux comparer à du Far Cry. Donc tu peux reprendre effectivement des lieux qui sont importants pour les ennemis, donc à force de c'est très intéressant, sauf que tu fais tout le temps un petit peu la même chose, donc il y a une certaine redondance.
Voilà, au bout d'un moment. j'ai une question surtout FPS oblige. Au niveau des armes, en fait, est-ce que la pénétration des bonnes, est-ce qu'au niveau des dégâts,
est-ce qu'il y a un impact, quoi,
est-ce qu'il y a un vrai impact, est-ce qu'on a vraiment l'impression d'une sensation de puissance dans les armes, ou si
c'est très léger de ce côté-là, ouais. C'est très léger de ce côté-là, et c'était un petit peu la même chose dans le premier épisode. T'as pas de sensation exceptionnelle, quoi. Ouais. Je me suis pas éclatée comme je m'éclate par exemple sur un Call of ou sur d'autres FPS.
T'as la première impression de tirer avec un paintball, en fait.
Ouais, c'est un peu ça. Ouais, ça fait très léger, c'est vraiment le terme, ça fait très léger, ça fait très factif,
y a pas vraiment de recul,
en fait. Ouais, voilà. Okay. Donc
C'est vrai que c'est pour un FPS, c'est un peu dommage.
Voilà, c'est pas le point fort du jeu, mais je trouve que le rythme général, l'histoire, toutes les petites missions à faire, toutes les petits à côté, t'as des jobs, ça s'appelle des jobs que tu peux retrouver dans des planques, sur des tableaux qui sont des quêtes annexes que tu peux faire, ça peut être aller prendre en photo l'ennemi pour voir un petit peu leur mode d'organisation, ça peut être aller buter des mecs, ça peut être...
Mais là, tu me décris un truc qui a l'air sympa, en plus, j'imagine que c'est jouable.
Commencer par le bon.
C'est jouable en multi, j'imagine.
Alors, tu peux jouer en coop.
En solo.
Tu peux jouer en coop. En solo, voilà, moi j'ai joué toute seule. J'ai pas testé le mode coop. Mais ce serait sympa de le faire, puisqu'effectivement, tu peux créer ta propre unité de résistance. Donc, ça peut être cool. Mais moi, je n'ai fait que le solo. Donc, j'ai joué toute seule. Et franchement, je me suis pas ennuyée, même si effectivement, c'est un peu répétitif.
Mais il y a un autre problème.
Après, il y a un autre problème, et de taille, c'est les nombreuses chutes de framerate. C'est vraiment horrible.
Mais est-ce que c'est beau, moi ? Est-ce que ça légitime ?
C'est un peu daté.
C'est un peu daté. Ah, mais c'est vrai que c'est daté, et en plus, il y a des baisses de framerate.
Si tu veux, le rendu global est joli. Bah, déjà, c'est très difficile de passer après Uncharted 4. Mais c'est assez joli. Mais en fait, tu te rends compte quand même que c'est un peu daté, quoi. C'est un peu daté.
Mais c'est ce que on voit dans le trailer, c'est un peu fade, des couleurs, etc.
Ouais, tu vois, c'est un peu light. Il y a énormément de ralentissements, effectivement. Ah. Il y a des freezes.
Ah oui, c'est problématique.
C'est un jeu qui a eu droit à la petite mention Warning Day One, hein, si
exactement,
je ne m'abuse.
Exactement, on a eu la mention Warning Day One. Tu vas d'ailleurs expliquer ce que c'est, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il n'y en a eu qu'un, je crois, pour l'instant.
Non, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plein. Oh là là.
Oula,
il y en a eu tellement,
Ma bonne dame.
Elle n'a pas eu tant que ça, mais il y en a eu quelques-uns.
C'est une mention Just Cause, il me semble,
qu'on met en place depuis décembre sur Gameblog, effectivement, qui consiste à vous prévenir si un jeu est trop buggé ou s'il a des problèmes techniques qui vraiment empêchent d'apprécier ses qualités à leur juste valeur. Et bien maintenant, on le signale, je vous le dis, depuis décembre. On l'a fait pour Just Cause 3,
Dark
on
Souls.
L'a fait pour Firewatch, on l'a fait pour Dark Souls aussi. Ah bon,
je me souviens pas. Dark Souls 3, on l'a fait, ouais.
D'accord. Et ben écoutez, voilà, on l'a fait pour tous ces jeux. Et si jamais, normalement, les développeurs amènent des patchs pour essayer de corriger les problèmes, si jamais, eh bien, on a connaissance d'un patch, qu'on observe qu'il y a une amélioration de ce côté, eh bien, la note est susceptible de changer. Hein. Ça peut être effectivement un facteur aggravant concernant la note. Bref.
C'est une mention
en tout cas qu'on met maintenant sur les jeux qui sont un peu trop vérolés, et on va continuer comme ça. Hein. Bah, et c'est le cas de Homefront The Revolution.
C'est le cas, et j'allais dire, c'est dommage parce que, encore une fois, je me suis amusée, et même si c'est très générique, il n'y a rien d'exceptionnel.
Mais tu l'as testé sur quoi déjà ?
C'est sur PS4.
PS4, ah oui.
Même si c'est très générique, je me suis amusée, tu vois, à chercher par où monter pour aller choper les lieux. Voilà, c'est les points stratégiques, mot que je cherchais. Tu peux reprendre des points stratégiques, etc., à l'ennemi. Donc effectivement, c'est assez redondant. Tu fais toujours un peu la même chose. Mais j'ai trouvé ça cool de devoir se cacher pour ne pas se faire opérer par les drones, tout ça. Encore une fois, l'IA ennemi est hyper efficace, donc il ne faut pas se faire choper. Tu vas fabriquer tes petits trucs, tu vas te servir de ton silencieux. Il y a un petit côté, effectivement, infiltration qui est assez sympa, qui est ajouté subtilement au gameplay de d'Homefront, que je trouve vraiment assez dynamique.
Ouais,
même
c'est des bonnes idées, mais gâchées
par des problèmes techniques. Et voilà, donc les noms, surtout les freezes, quoi. Ça, c'est encore les ralentissements. Bon, quand il y en a un ou deux, mais là vraiment c'était redondant, quoi. Ça revenait tout le temps, ton perso qui bloque dès que tu tires, dès que tu cours. Pour un FPS en plus, c'est un peu ballot. Donc voilà, donc Warning Day One, je lui ai mis 6, je crois que je lui ai mis 6. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas un mauvais jeu. Voilà, j'ai pas voulu être trop dur avec lui parce qu'il mérite pas. Franchement, pour ceux qui avaient apprécié Homefront, ça me paraît difficile parce que c'était encore pire. Là, on a un monde ouvert, donc déjà on a plus cette linéarité.
Il sauve les meubles, quoi. Ça.
Ouais, et puis voilà, tu franchement c'est pas mal. Maintenant, voilà, ça mérite pas plus. C'est pas un grand jeu. Donc à voir s'il y a un patch, je le souhaite prochainement.
Très bien.
Espérons-le.
Voilà.
Espérons-le, effectivement. Voilà. Si jamais, évidemment, il y a d'autres personnes qui veulent aimer ce jeu, ça leur permettra de l'apprécier.
Aimez-le.
Un peu plus, ça sort le 20 mai, c'est sorti le 20 mai.
Ouais.
Sur PS4, Xbox One et PC, c'est Homefront The Revolution. C'était la deuxième déception de ce podcast et nous allons passer à la troisième.
D'ailleurs, non, c'est pas sorti, on n'est pas le 20 mai, on est le combien
au
là?
Au moment où on enregistre, non, mais voilà. Donc c'est sorti, voilà. Ça va sortir, c'est en train de sortir, c'est sorti. Enfin bref, voilà. Pour le moment où on enregistre en tout cas. Mm-hmm. On passe au troisième thème de cette semaine qui concerne un jeu, ou plutôt la renaissance d'un jeu qui était cher à mon cœur, je sais pas, c'est pas Shadow of the Beast. Jeu sorti en 89 sur mon petit Amiga 500 et sur d'autres machines évidemment. Un jeu qui à l'époque nous fracassait les yeux. C'était une révolution technique quand il est sorti. Alors niveau gameplay c'était pas trop ça, mais niveau visuel c'était complètement fou. Et niveau audio aussi, vous entendez là une des musiques, une des compositions de David Whittaker pour l'époque qui était exceptionnelle.
C'est trop cool hein.
C'était pas un super jeu, mais c'était une belle petite expérience quand même. Les deux suites étaient bien meilleures dans mes souvenirs en tout cas, c'est le cas. Il faudrait que j'y rejoue là dans pas longtemps.
Si Carole t'y joué.
Du tout. Ouais.
C'est vrai, donc aucun de vous deux ne connaît Shadow of the Beast.
Non, ouais, j'ai plus qu'à m'y mettre sur PS4, bah, j'ai reçu un code là donc.
Bah alors t'auras peut-être pas envie, hein.
Là je vais être bien obligée d'écouter ce que t'as à dire.
Ah bah vaut mieux, oui.
Mais moi ça me tentait bien, j'avais justement demandé le code donc.
J'avais vraiment des bonnes. Comment dire? Des bonnes sensations quand j'avais été l'essayer à Londres en début d'année là. J'y croyais à mort, je me disais ça y est, ils ont trouvé une bonne formule et tout. Ça me faisait penser un peu à du God of War en 2D, mais au final c'est pas trop ça.
Ça rappelle des bons moments quoi, bah, ça me rappelle l'époque.
Ça me rappelle des vieux souvenirs. Alors voilà, évidemment du côté fanservice, là ils sont, c'est quasiment un musée le jeu de manière générale. Parce que ne serait-ce que pour le jeu lui-même, ils ont été recherchés donc et ils ont remis au goût du jour des designs d'époque, que ce soit les décors, le bestiaire que tu vas affronter toujours dans la peau du même personnage qu'il y a 27 ans dans le premier jeu. T'as vraiment l'impression de retourner. Pour moi, j'avais l'impression vraiment de retourner en enfance quoi. À l'époque où j'ai découvert ce jeu, tu vois, tu reconnais la si vous êtes premium, hein, les premières le premier niveau c'est le même, c'est les plaines de Karamoun avec à l'époque. C'était un truc avec 13 couches de scrolling, c'était les mêmes couleurs à l'écran, c'était magnifique, magnifique. Bon, bah aujourd'hui c'est joli, sans casser des briques non plus, et ça a été un peu modernisé au niveau du gameplay. Comme je le disais, c'est devenu un beat'em all un peu plus, comment dire, assez proche de God of War à mon sens. Et ça aurait pu fonctionner vraiment. On nous donne plein d'outils pour que ce soit des combats qui soient ultra gore, ultra dynamiques, avec plein de possibilités de passer à des styles différents. Alors évidemment, il n'y a qu'un seul bouton d'attaque, mais à chaque fois, vous avez des animations différentes. Il faut, comment dire, moduler un petit peu avec les possibilités de contre, des possibilités de garde. Il faut surtout se servir de la garde le plus souvent possible.
Et ça se veut hardcore donc le jeu.
Ça se veut assez hardcore, ouais, ouais. Il y a un système très, comment dire, très à l'ancienne de scoring, hein. Le but c'est vraiment de faire les meilleurs scores sur les, mm-hmm. sur les sections où tu vas affronter des ennemis qui sont très balisés. Tu te retrouves vraiment entre deux, comment dire, entre deux portes quoi, comme si t'arrivais dans un beat'em all à la Bayonetta ou à la Devil May Cry. C'est hop, c'est dans cette zone là tu vas affronter une vague de je sais pas combien d'ennemis et il faut essayer de trouver le moyen de se les faire avec le plus de style possible et le plus rapidement possible. Alors comme je disais, Il y a des outils qui sont donnés, garde, esquive, possibilité de passer derrière l'ennemi, possibilité de faire des roulades, même si quand tu les enchaînes au bout de 3, bah, ton perso il est un peu, comment dire, un peu étourdi, donc du coup il faut faire attention à pas en abuser. Il y a des attaques spéciales qui permettent de regagner de l'énergie, de faire monter son score. Il y en a une notamment qui est ultime, qui consiste à faire apparaître des énormes pics qui sortent du sol. Alors c'est très limité, hein, faut pas en abuser, parce que c'est vraiment ultime comme attaque. Et ça, tout ça, ces petits trucs là ça permet d'enchaîner dans les différents niveaux avec un peu plus d'assurance et de manière à essayer de choper les trophées de platine dans chacune des sections.
Du coup, ça a l'air un peu linéaire, non, au niveau du...
Ah oui, alors c'est complètement linéaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont voulu mettre des éléments un peu plus aventure, un peu exploration. Alors là, de ce côté-là, c'est là que ça commence à être un peu...
Ouais, bon, déjà... c'est dommage parce que c'est une bonne idée, justement. Mm. C'est censé densifier
Ils auraient pu s'inspirer des jeux comme Castlevania ou des Shadow Complex, mm-hmm. ou encore de Metroid, mais...
Bah, attends, mais déjà, mettons les choses au clair. Pour toi, c'est une petite déception ou une grosse déception?
Ah, pour moi, c'est une énorme déception.
Ah, c'est même pas mitigé, quoi. Nous, autant on était un peu partagés,
ouais,
toi, c'est
radical.
C'est
de la merde, quoi.
Non, pas du tout. C'est juste que... je sais pas, ils ont peut-être voulu faire un trip un peu trop old school et surtout ils ont oublié de peaufiner certains éléments. Alors je le disais, pour l'exploration c'est pas génial, il y a quelques puzzles ils sont pas fantastiques et franchement ils prennent 10 secondes avant d'être résolus. Pareil pour l'exploration elle-même, il y a un temps de latence qui est monstrueux au niveau du saut, qui fait que bah, par moment vous voyez, vous arrivez au bord d'une corniche, c'est pire que dans le premier Tomb Raider quoi. C'est vraiment, faut prévoir, faut appuyer genre une seconde avant qu'on soit arrivé
au bon moment là.
Ah ouais,
et
c'est
moment,
affreux.
Ouais,
alors ils ont mis des petits éléments d'escalade façon Strider ou comme Kratos dans God of War 4 où on peut évidemment se mettre sur grimper au mur, essayer d'alterner un petit peu les modes de déplacement, mais ça fonctionne pas des masses. Et puis les combats, il y a un truc qui va pas du tout quoi, c'est que pendant les combats c'est pas que c'est mou, pas du tout même, c'est même pas mou, c'est juste qu'on te dit c'est un truc hardcore, il faut que tu que t'aies des temps de réaction qui soient bien par rapport aux ennemis qui arrivent, mais des fois t'es en plein milieu d'un combo, enfin t'es en plein milieu d'une mise à mort, il y a un pauvre com qui arrive derrière toi qui vraiment, mais normalement tu devrais le défoncer, et toi tu te dis bon moi je vais juste parer l'attaque, donc tu vas dans la direction, tu mets la parade, sauf que ça marche pas, ton mec est toujours en train de faire son combo, ou alors il juste s'il y a pas eu d'animation pour se retourner, et du coup ton combo où t'étais bien parti, tu te disais ah c'est cool, je vais avoir un bon score, ça marche pas.
Ah ouais,
voilà, tu te fais interrompre là-dedans,
c'est un peu dommage, ouais.
et ça arrive ultra souvent d'être frustré par des détails. Alors le fait est qu'en plus comme c'est un jeu old school, ils ont pas voulu mettre de points de sauvegarde ou de checkpoint pendant le truc, ce qui fait que sur certains niveaux, imaginons tu te foires dans l'avant-dernier combat, il faut que tu te retapes 15 minutes
ça,
à tout te refaire,
ouais.
Ce qui est quand même un peu imbitable par certains moments. Alors les niveaux, il y en a que 7, certains qui font à peu près 3 minutes, d'autres qui font une vingtaine de minutes, certains où on ne dit pas du tout ce que tu dois faire et tu peux te retrouver, je crois que c'est arrivé à pas mal de confrères, à évoluer dans un endroit qui est tout noir, mais vraiment tout noir, et tu sais pas ce que tu dois faire exactement parce qu'il n'y a pas eu d'indice pour te dire ah oui mais attends, en fait pour avancer il fallait peut-être prendre un autre chemin d'abord que celui qu'on imaginait.
Attends, là du coup la durée de vie elle est de combien de temps?
J'ai dû mettre une après-midi pour finir le jeu en normal, qui te force quand même le jeu à recommencer pour débloquer d'autres choses. Alors notamment le jeu de 89, ses musiques et même une vidéo de walkthrough du jeu et même un god mode pour le jeu de 89 qui, je vous le dis, était vraiment pas génial. Et puis surtout des éléments de scénario, en fait on peut débloquer les langages parce que tu vas rencontrer des créatures de différents types qui vont te parler dans un langage inconnu à chaque fois. En bas ce sera juste des hiéroglyphes et donc tu vas débloquer ça pour essayer de comprendre ce qui se passe au niveau scénar, qui est pas fabuleux non plus, le scénar, mais bon, après ça c'est une autre histoire.
C'est un tout bon quoi. C'est...
Non mais vraiment, c'est une foirade quoi, tout bêtement. C'est juste un jeu qui s'est foiré. C'est
on
dommage.
On peut dire que c'est un beat'em all qui bande mou.
Complètement. Ouais.
Il bande mou.
Ouais, après comme je vous dis, il y a le beat'em all qui est foiré, il y a l'exploration qui est pas très intéressante.
Après comme ça c'est, enfin je veux dire, le rendu global est séduisant, enfin c'est je trouve ça très joli moi.
Ça aurait pu être un
mais ça fait pas
bon
tout
jeu, mais voilà. Mais malheureusement
esthétiquement du coup,
ah l'esthétique elle est bonne,
c'est super,
ils sont inspirés de ce qu'était le jeu d'origine.
Il y a une jolie patte, c'est joli,
je pense que ça m'a l'air assez
il y a une bonne direction artistique, mais le reste malheureusement c'est pas ça du tout quoi. Non,
et malheureusement c'est l'essentiel, le reste
ouais. C'est ça le problème.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Je sais pas, on est dans des temps difficiles. Hein.
Oh mon dieu.
C'est affreux. Hein.
Du coup, je vais jouer à Tetris, moi, tiens.
C'est vrai?
Ouais, regarde.
Tu pourrais même jouer dans le film si tu veux, il y avoir des films.
Oui, c'est vrai, il y a des films.
Ouais. C'était sorti le 17 mai sur PS4 exclusivement. Et malheureusement, ce Shadow of the Beast est pour moi une énorme déception.
Tu l'as mis combien?
Je lui mets un 4 sur 10.
D'accord, c'est la descente aux enfers. On passe de 7 à 6 à 4.
C'est exactement, on s'est fait un espèce d'escalier là, vidéoludique.
Puis on l'a bien descendu, je vous le dis tout de suite.
C'est un peu ça.
C'est un peu ça. Donc voilà, si vous avez des souvenirs nostalgiques de Shadow of the Beast, vous vous retrouverez à peu près la même qualité de gameplay qu'à l'époque, quoi. C'est-à-dire un petit peu moyenne, voire pire que ça. Mais bon. Il n'y a pas que le jeu vidéo dans la vie, les amis. On va essayer de se détendre un petit peu avec d'autres choses maintenant. On va passer comme chaque semaine au hors-jeu. Et on va commencer avec toi, Camille, pour parler un petit peu d'autre chose que de jeux vidéo.
De
toi,
littérature.
Tu vas nous parler de littérature. Oh, c'est un truc de fou parce que personne ne lit à la rédac. Tu es le seul.
Je lis beaucoup.
Et tu vas nous parler de...
Alors, je vais vous parler de Alice au Pays des Merveilles. Donc, évidemment, pas la version classique que tout le monde connaît. Mais en fait, il y a une version qui est sortie l'année dernière, illustrée. Donc par un homme qui s'appelle Benjamin Lacombe.
D'accord.
Donc il y a eu énormément de versions illustrées d'Alice au Pays des Merveilles. Donc moi je suis un gros fan de Lewis Carroll et de son œuvre en général, puisqu'il faut savoir qu'il n'a pas fait que Alice.
Et donc, de l'autre côté du miroir.
Et voilà, exactement. Et donc cette version illustrée est une bonne occasion de redécouvrir Alice au Pays des Merveilles.
Mais elle est blonde.
Elle, oui, elle est blonde, mais de toute façon, la petite fille était blonde aussi originellement.
Elle était blonde. Hein.
Ah bon, dans le... moi j'étais sûr que dans le bouquin elle était brune. Hein.
Non,
c'est que c'était Disney qui avait blondi.
La photo, il est original de Alice, parce qu'en fait, elle s'inspire de Alice Liddle,
qui était la voisine de Lewis Carroll. Voilà.
Et la petite fille était brune, effectivement.
Ah, c'est bien ce que je me disais.
Mais après, un truc. Dans la fiction populaire, enfin dans l'idée populaire, c'est vrai qu'on sait jamais si on doit la voir en brune ou blonde.
J'ai toujours vu blonde.
Quoi qu'il en soit, Benjamin Lacombe a décidé de la faire blonde, donc ça, peu importe. Mm-hmm. Dans un esprit assez gothique, donc oui, c'est, on peut dire ça, c'est de l'art gothique, et c'est vraiment un très bon moyen de le redécouvrir. Il y a énormément d'illustrations, on a une cinquantaine, si je dis pas de bêtises.
D'accord.
Et c'est vrai que bon, qu'il y a quand même eu 15 illustrateurs en tout qui ont travaillé en général sur l'œuvre de Lewis Carroll, qui ont illustré. Il y a eu notamment Dali. Et donc là, c'est chacun, on sent vraiment la personnalité de chacun des dessinateurs. Et c'est vrai que Benjamin Lacombe a une personnalité très forte et ça se ressent vraiment dans le dessin. Je le conseille vraiment pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire et pour ceux qui veulent aussi la redécouvrir. C'est coloré et en même temps, c'est sombre par certains aspects.
Bah, de toute façon, Alice au Pays des Merveilles fait partie d'une période. Même le Disney fait partie d'une période très sombre. Il fait partie des Disney maudits.
C'est ça.
Si vous connaissez un petit peu l'histoire, ça, Merlin l'Enchanteur, ça a été des dessins animés avec une histoire un petit peu.
Et
c'était
pourtant,
une période un peu sombre. J'adore Alice. Ils sont tous tarés dedans.
Et justement, ce qui est intéressant, c'est que dans le dessin, on retrouve ce côté surréaliste en fait, que Dali aussi avait très bien réussi à rendre.
C'est pas très éloigné de ce qu'a proposé
Lewis Carroll lui-même, non ?
Non, le développeur de jeux vidéo avec sa vision du Alice Return.
Madness Return.
Les deux,
alors oui, effectivement, du coup on revient aux jeux vidéo malheureusement. Mais c'est vrai qu'il y avait alors je me souviens plus du nom du développeur.
Moi non plus,
mais
je suis dégoûté.
Alice Madness Return était un très 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 bon jeu, donc sur la licence. Moi j'ai adoré.
C'est subjectif.
Là, c'est très subjectif. Hein. Moi, j'ai trouvé ça d'une platitude confondante.
Moi, j'ai adoré, mais peu importe.
Le premier avait fait plus d'effet.
En tout cas, esthétiquement, tu pouvais pas lui retirer ça.
Ah non,
c'était une grosse réussite.
C'était génial.
Et donc, oui, c'est vrai qu'on peut retrouver par certains aspects cette idée-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas une Alice vraiment très enfantine, on a plus une Alice adolescente. Et donc, c'est assez sombre. C'est une vision assez sombre, finalement, du mythe et du conte. Et vraiment, je recommande vivement. Ça coûte. Ça coûte assez cher, c'est quand même une trentaine d'euros.
Oh bah alors non, alors.
C'est...
Ça va, je plaisante.
C'est une version, vous savez, cartonnée, enfin une belle version, c'est un beau livre en fait, comme un beau livre, donc c'est assez cher, mais ça vaut le coup.
Donc c'est Alice au Pays des Merveilles, chez éditions Soleil.
Soleil, voilà, Benjamin Lacombe, vous trouverez ça partout dans les bonnes librairies. Et je vous le conseille.
Sur l'internet aussi.
Sur internet aussi.
Voilà. Très bien, on va passer, ma foi, à Carole maintenant. On va parler un peu plus cinéma avec toi.
Cinéma et littérature aussi.
Ah oui, c'est... non mais je voulais... Moi, je savais pas que tu savais lire en fait, c'est pour ça.
Je sais, mais tout le monde croit que je sais pas lire en fait. D'ailleurs, les lecteurs de Gameblog, vous le savez, c'est pas moi qui écris mes tests, hein. C'est les mecs de la rédac. Je ne sais pas donner un avis de fille d'ailleurs.
Ouais.
C'est pas très intéressant.
Carole, vous avez parlé de Laclos une fois. Dans une...
J'avais parlé de Jeannère en termes de littérature.
Mais en fait, c'était Jeanne et Serge dont tu voulais nous parler à ce moment-là, mais tu t'es gouré.
C'était ça, et j'ai dit Jeannère, et puis du coup, on a cru que je savais lire. Mais du coup, en fait, je te confirme,
c'était
Jeanne et
Serge.
Je sais lire, oui. Julien m'a appris. Il me donne des cours chaque soir, et donc j'ai pu lire Geisha. D'Arthur Golden, un livre vraiment magnifique. Alors, c'est un pavé, il fait au moins, je crois qu'il y a presque 600 pages. Je l'ai lu au moins 20 fois et récemment, donc je l'ai relu. Un livre qui a été adapté au cinéma, Mémoire d'une geisha.
Ah, c'est ça, d'accord.
Voilà, un très très beau livre, un très très beau film avec Gong Li, Zhang Ziyi, bien sûr, de très belles actrices chinoises. D'ailleurs, ça avait déclenché tout un pataquès à la sortie du film, puisque effectivement, on parle de geisha qui sont des érudits, des artistes. Le terme geisha voulant dire artiste, qui sont des érudits japonaises, des artistes japonaises et non pas des chinoises. Alors, ça avait crié très très fort au Japon. Mais effectivement, les actrices chinoises, notamment Gong Li et Ziyi Zhang, on peut pas non plus, c'est difficile de faire le poids. On avait également Ken Watanabe, Michelle Yeoh, fait un très beau casting pour un très 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 beau film avec une musique incroyable de John Williams d'ailleurs. Mais le livre, c'est vrai que c'est le livre que j'ai lu en premier. Vraiment, c'est un très très beau bouquin que je vous conseille fortement si vous aimez le Japon. Et si vous avez envie d'en apprendre plus.
J'ai loupé un truc, l'auteur lui-même est japonais ou...
Arthur Golden, du tout.
Ah,
non,
non. D'accord. Il a fait
énormément de recherches pour pour écrire le livre, qui est écrit effectivement comme une biographie, mais qui n'en est pas une, hein, c'est romancé. Mais ça se rapproche, j'ai lu énormément de livres sur la vie des geishas, notamment un autre livre qui s'appelle Mémoire
David
de geisha,
geisha notamment, hein.
Notamment David Geisha, qui est un très très grand DJ. Ouais. Et donc ça se rapproche assez de ce qu'il a écrit, donc on voit qu'il a fait énormément de recherches, c'est assez réaliste.
Si vous voyez la tête de Poufy derrière quand j'ai fait ma vanne, ça vaut son pesant de cacahuètes.
Il était vraiment désolé.
Je suis désolé aussi, pardon.
Mais en tout cas, si vous aimez le Japon, vraiment, c'est une occasion déjà de s'y plonger totalement.
Mais ça parle de quoi ?
Et ça parle de l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Chiyo, qui vit avec son papa, sa maman et sa grande sœur. Et donc, sa maman est malade, son papa n'est pas très en forme non plus. Et donc, ils vont décider, comme c'était souvent le cas à l'époque, de la vendre à une maison de geisha, donc une okiya. Et donc ça va être très difficile pour elle au départ, hein, parce que c'est une petite fille, elle a seulement 9 ans, et elle va devoir s'habituer à cette vie. Au départ c'est juste une servante, et puis elle va rentrer à l'école de geisha, et petit à petit elle va s'immerger dans cette vie japonaise où elle va rencontrer tout un tas de gens haut placés, jusqu'à rencontrer le président dont elle va tomber amoureuse. Donc je ne vous en dis pas plus si vous n'avez pas vu le film ou si vous n'avez pas lu le livre.
Attends, le président, c'est... ça veut dire que c'est assez proche de nous en fait, en termes temporels, cette histoire.
Elle appelle le président, mais c'est surtout le président, ça se passe dans les années 30.
Oui, parce que j'allais dire, c'est toujours un empereur au Japon.
C'est le président d'une société en fait, puisque les geishas au Japon, à l'époque et encore aujourd'hui, il y en a encore quelques-unes à Gyon, à Kyoto. Les geishas, si vous voulez, accompagnent.
Mais j'ai toujours cru que c'était
très cher. Ah, du tout.
J'ai vraiment une mauvaise culture japonaise.
Non, ce ne sont pas. Mais l'erreur est humaine, mais fatale aussi. Fatality. L'erreur vient souvent, parce que les gens s'imaginent, déjà ne connaissent pas bien l'histoire, et s'imaginent effectivement que ce sont des filles de joie ou des entraîneuses, etc. Non, ce sont vraiment des érudits, des artistes. Encore une fois, le terme geisha veut dire artiste. Ce sont des œuvres d'art vivantes qui apprennent la musique à l'école de geisha, qui apprennent les arts, qui apprennent la danse, et qui sont là justement pour accompagner des gens très importants, comme des présidents,
des notables,
des ministres, etc. Ça coûte assez cher. À l'époque, elles se faisaient payer à l'encens. On laissait brûler de l'encens et c'était au nombre de bâtonnets d'encens brûlés qu'on les payait. Aujourd'hui, je pense plus que ça fonctionne comme ça. En tout cas, je n'ai jamais rencontré de vraie geisha, mais je pense pas que ça soit comme ça aujourd'hui. Et donc, c'était vraiment des dames de compagnie, mais de haute, comment dire,
des
haute condition. Ce
de...
sont même pas des escort girls, là, attention, hein.
Mais t'insistes beaucoup, hein, là-dessus.
Qu'est-ce que tu veux? En tout cas, c'est très intéressant parce que ça nous apprend énormément de choses sur les geishas, et on s'immerge totalement dans ce Japon. On s'attache à cette petite fille. C'est très bien écrit. Arthur Goldin a vraiment une très très belle plume.
C'est une belle histoire.
C'est vraiment une très très belle histoire, et si vous avez vu le film, je vous conseille de lire le livre. Et bizarrement, moi, à chaque fois que j'ai lu un livre et que j'ai voulu regarder le film derrière, j'ai toujours été plus ou moins déçue. C'est sûr que c'est plus difficile de poser une histoire sur un livre, sur un film, que dans un livre, hein. Forcément, il faut tout condenser. Là, vraiment, les deux sont très respectueux l'un de l'autre. Le film est très respectueux du livre. Et vraiment, il y a une vraie force que tu sens aussi dans le film, même si c'est plus court. C'est beaucoup plus détaillé dans le livre, bien sûr. Mais en tout cas, c'est vraiment très, très fort. C'est une très belle histoire, un très beau film. Parce que du coup, voilà, je parle des deux aussi. Je me permets de parler des deux parce que même le film, je l'ai vu au moins 20 fois, avec une très belle musique, etc., avec de très belles actrices. Zizi Zhang, c'est vraiment une très, très bonne actrice. Très, très belle. Gong Li, pareil. Dedans, elle joue Atsumomo, une geisha perfide. Est très méchante, c'est pas un mutant, mais elle est méchante. Donc voilà, je vous le conseille fortement. C'est vraiment une très très belle lecture, et si vous aimez le Japon, eh bien vous allez voyager. Et le film aussi, pareil, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Je crois qu'il est sorti en Blu-ray.
Rob Marshall. Il a de l'âge, hein, ce petit film.
Il a de l'âge, mais il n'était pas forcément disponible en Blu-ray tout de suite.
D'accord.
Je l'ai cherché longtemps, moi.
D'accord.
Voilà.
Bon, Geisha de Arthur Goldin. On va finir cette séquence de hors-jeu avec quelque chose d'un peu plus joyeux. Enfin, les déceptions, c'est fini, on passe à autre chose.
Bah attends, c'était joyeux, nous aussi.
Avec une série, évidemment, ça passe encore sur Netflix, comme d'habitude. On parle de Netflix toutes les semaines. Bon, la troisième saison est diffusée en ce moment en Grande-Bretagne sur BBC Two, mais les deux premières saisons sont disponibles sur Netflix. Arte avait commencé à diffuser cette série en début 2015, ça s'appelle Peaky Blinders. Alors, sachant qu'il y a Camille à côté de moi, ça va être un bon moyen de l'intéresser. Ça se passe juste juste après la Première Guerre mondiale. D'accord. Ça se passe à Birmingham. Une famille de gitans, entre guillemets, essaye de prendre un petit peu, comment dire, de mettre la main basse sur tous les business illégaux et légaux de la ville de Birmingham. On suit donc une famille, la famille Shelby, avec eh bien, à leur tête l'acteur que vous pouvez voir si vous êtes premium dans cette bande-annonce, qui s'appelle Cillian Murphy, que vous connaissez sûrement, ce bel acteur avec ses yeux incroyables qu'a joué dans 28 jours plus tard et qu'on a retrouvé ensuite comme un peu le petit chouchou de Christopher Nolan. C'est lui qui joue notamment l'épouvantail dans tous les Dark Knight. C'est aussi lui qu'on voit dans Inception.
Dans James Bond aussi, non?
Je me souviens pas de l'avoir vu dans un James Bond en ce qui me concerne, mais dans Inception par exemple, c'est lui qui se fait inceptionner. Ah, oui. C'est à cause de lui que tout se passe. Et bien voilà, le beau Cillian Murphy est au cœur de cette fiction qui se veut assez réaliste, hein, en termes d'image. C'est très sale, c'est pas du tout un Londres rêvé, une Grande-Bretagne rêvée,
idéalisée, quoi.
Idéalisée, c'est vraiment un Birmingham industriel, sale, boueux. C'est très cru.
Il est miséreux en plus que d'après-guerre.
Ouais. Ah oui, puis bah, lui, c'est un ancien. Il vient de revenir de France.
Ah, mais il y a notre bon ami de Jurassic Park.
Il y a aussi Sam Neill, Alan Grant dans Jurassic Park, qui est là pour jouer un petit peu l'ennemi de Thomas Shelby, donc incarné par Cillian Murphy. Il est très très bon dans ce rôle.
Il y a un tyrannosaure ou pas dans la série?
Mais Sam Neill est très très bon. Il est assez inattendu dans ce rôle de mec un peu méchant. Il a un accent irlandais aussi, vraiment à couper au couteau, qu'il a bien bien travaillé, hein. Alors je sais qu'il est néo-zélandais, qu'il est né en Irlande, etc., mais mine de rien, son accent, j'avais jamais entendu comme ça.
Mais c'est un très bon acteur,
franchement très très bon. Alors Sam Neill, qui a pas fait que Jurassic Park, il a aussi fait Land de la folie,
il a fait une série qui s'était La Révolution française, ça s'appelait.
Ah ouais,
ouais. Et c'est une très bonne série sur la Révolution française. Il joue Lafayette dedans et il a très bon rôle aussi.
Ah bah je ne le savais pas, ouais. Je vais me pencher là-dessus parce que j'aime beaucoup cet acteur aussi. Je trouve qu'il est assez rare et que c'est bien de le voir un peu plus souvent.
Ah oui, c'est vrai, il jouait effectivement aux côtés d'ailleurs de...
Il y avait beaucoup d'acteurs.
Il y avait d'ailleurs Marie-Antoinette, c'était Dr. Quinn, comment elle s'appelle?
Jane Seymour. Ouais.
C'était Jane Seymour.
C'était pour les...
C'est vieux.
C'était
en deux épisodes, il me semble.
Quatre épisodes, ouais.
C'était pas deux épisodes.
Non, c'était quatre.
D'accord.
Ça me dit rien du tout.
Mais avec effectivement Jane Seymour et puis Danton aussi, il était joué
c'était
par.
C'était pour l'anniversaire de la Révolution et ça a été
pour bicentenaire.
Puis pour l'histoire de la Révolution, j'allais dire édité, non, parce qu'on est plus dans le milieu du jeu vidéo, mais ça a été
diffusé sur Antenne 2 à l'époque.
Voilà, Antenne 2 à l'époque, et c'est la France qui a payé.
C'est Sam Neill qui jouait Lafayette. Bah merde, je me rappelais pas du tout.
Et l'acteur qui jouait Danton, il est très connu lui aussi.
Ah oui, c'est un Allemand. C'est un acteur très
bon. Oui, tout à fait.
Qui jouait Danton.
Son nom m'échappe. Vous vous souvenez, dans les commentaires, n'hésitez pas,
que je dise pas de bêtises, mais il y avait Robert Renucci qui jouait Saint-Just.
Oui, c'est pas faux.
On en a parlé.
Spoiler, à la fin, tout le monde se fait couper la tête. Ouais. Hein, c'était horrible.
On en avait parlé en plus pendant un podcast, je m'en rappelle très bien. Mais bref. Peaky Blinders, série incroyable, vraiment, c'est à l'anglaise, c'est du 6 épisodes seulement de environ 1 heure, avec une ambiance mais vraiment sale, vraiment, vraiment méchante, avec une trame qui se développe très très bien du début à la fin. Il y a toujours des petits cliffhangers en fin d'épisode pour te dire bon bah non, je peux pas rester sur ça là, faut que je fasse le suivant. Les différents personnages secondaires sont ultra attachants. On retrouve pour ceux qui regarde comment s'appelle cette série, Julo en a parlé la semaine dernière, mince, ça y est, je vais plus le retrouver,
avec Eva Green.
Non, la série avec Eva Green, c'est Penny Dreadful, voilà. Ah, on retrouve une des actrices de la saison 2 de Penny Dreadful qui joue ici une tante du héros, qui est incroyable.
Mais c'est pas Eva Green,
c'est sûr.
C'est une beauté, comment dire.
Oui, elle est paraît-il atypique. Ouais. Bref, on va pas revenir là-dessus, exactement. Et puis, un des trucs qui fait aussi que cette série est vraiment exceptionnelle, c'est sa BO. Ils ont eu la bonne idée, donc déjà, d'avoir une espèce de filtre à l'anglaise sur la mise en scène, mais en plus d'ajouter une BO qui est moderne. Alors, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout évidemment, il y a un petit peu de Charleston de temps en temps, hein, quand on rentre dans certains troquets, mais sinon, c'est une BO avec, notamment, pour le générique, on va dire, entre guillemets, une musique de Nick Cave qui s'appelle Raid Right End, qui est très connue, qui a été adapté à toutes les sauces par je ne sais combien de groupes de rock. On trouve donc cette chanson.
C'est la grande mode de faire des séries qui se passent passé et avec ouais. des musiques modernes.
Ça fait des contre-pieds excellents.
Ouais. Bon, Versailles,
ils avaient
fait ça.
Ah ouais, non, mais c'est ouais. magnifique.
Versailles de Jalil Lesper, j'ai pas regardé, tiens d'ailleurs, ouais, il paraît que c'est très bien.
Pareil, très bonne, ah ouais. bonne série que je te conseille.
Ah bah écoute, je vais
m'en renseigner. C'est très très bon les contre-pieds. C'est, ouais. Je me souviens et du bah... film Chevalier, tu t'en souviens,
évidemment.
Sur du Queen.
L'intro de Chevalier, c'est la meilleure intro de film de tous les temps.
Fantastique, on vous le conseille d'ailleurs. On vous le conseille.
Et donc, on se retrouve avec du Arctic Monkeys, du PJ Harvey, du Nick Cave, du White Stripes à certains moments de la série. Ça se passe en 1919 et pourtant ça colle parfaitement. C'est presque même, on se demande même si la musique a pas été faite pour cette époque, tellement, tellement c'est parfait. Donc voilà, je vous conseille largement Peaky Blinders. Comme je vous le disais, il y a deux saisons sur Netflix. La troisième est en cours de diffusion en Grande-Bretagne sur la BBC 2. J'ai de la chance, j'ai une sœur qui vit là-bas, donc je peux me les regarder sans aucun problème. Et donc, casting de ouf, mise en scène de malade, bande-son de taré, avec Cillian Murphy pour ces dames, et pour ces messieurs aussi, remarque. Tu vois qui c'est maintenant, Cillian Murphy ou pas?
Maintenant, pourquoi ouais. maintenant?
Non, parce qu'on
en a déjà parlé.
Non, parce qu'on l'a pas vu tout à l'heure, je sais pas
on
si
a
on
déjà,
l'a vu
on
dans
a
le
déjà,
dans
a,
vidéo.
Mais on en a déjà parlé?
Ouais, mais tu vois qui c'est?
Non.
Non, mais il est beau comme un dieu.
Pourquoi tu me dis ça?
Bah parce que je pense que t'aimes bien les hommes, non?
Bah je préfère Julien.
N'importe quoi. Bon, ok. C'est ainsi que finit ce hors-jeu. Merci Camille et merci Carole pour
merci
vos petits hors-jeux.
Merci à toi, Plumeau.
Et puis, c'est ainsi que finit ce podcast, tout bêtement.
Merci à tous.
Ce podcast de la déception, mais pas tant que ça, en fait, hein, puisqu'on a fini sur une bonne note quand
avec
même.
Avec de l'amour quand même.
Ouais, un petit peu. Merci Camille, merci Carole pour
merci
ce podcast.
À toi, merci à vous.
Évidemment. Comme chaque semaine, je vais vous faire la même rengaine, mais si vous avez des choses à dire dans les commentaires, n'hésitez surtout pas, hein, c'est juste en dessous de nous là, dans les commentaires du podcast, si eh bien, dans les trois jeux qu'on a traités aujourd'hui, bah, ça se trouve, ils vous ont pas déçu, ça se trouve, ils ont déçu encore plus que nous, n'hésitez pas à nous faire part eh bien, de ces commentaires juste en dessous dans les forums. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast de la rédaction. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bah, jouez bien, allez,
bye
ciao
bye.